Il est 22h.
Parlons vrai.
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
22h minuit, Brigitte Lahaye Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaye Sud Radio.
Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces deux heures sur Sud Radio. Alors hier encore, j'ai comparé un peu l'amour à une addiction parce que, en effet, notre cerveau nous entraîne toujours à vouloir revivre les moments merveilleux de notre histoire d'amour, même si on sait que c'est fini. Eh bien, Laurent Carilla nous dira ce qu'il en pense dans un instant. Et puis, grâce à lui, puisqu'il est spécialiste des addictions, nous allons voir quels sont les points communs entre l'addiction et la passion. Et on ne parlera pas uniquement de la passion amoureuse parce que bien des passions peuvent nous entraîner loin, très loin, tant sur le plan financier que sur d'autres plans. Par exemple, j'ai eu la passion des chevaux, ça je crois que beaucoup d'entre vous le savent. Il faut bien reconnaître qu'elle fut terriblement chronophage et elle m'a sans doute fait rater des choses intéressantes dans ma vie. Alors Laurent Carilla, justement, va pouvoir, si vous avez une passion ou si vous êtes dans l'addiction, il va pouvoir vous aider à savoir comment vous protéger, parce que l'essentiel dans la vie, c'est évidemment pas de se refuser ses désirs, de ne pas aller dans la passion, parce que c'est aussi très excitant la passion, mais c'est de se protéger de tout ce qui peut nous mettre en danger. Alors vous avez des questions, vous avez envie de parler de votre passion ou de votre addiction, et bien vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Laurent Carilla.
Bonjour Brigitte.
Et vous aussi vous avez des passions, hein, de
moi j'appelle ça les addictions positives même. Ouais. Oui. À la musique moi.
Oui, je sais bien. Oui, les addictions positives, c'est pas mal parce que
j'ai rajouté le mot positif exprès.
Ouais. Et alors quelle est la différence entre une addiction et une addiction positive?
Une addiction, c'est une maladie chronique, c'est que négatif. On souffre, on consomme pour pas souffrir, peu importe des substances ou des comportements. Et moi, j'ai rajouté le mot positif derrière parce que j'ai trouvé que finalement, il y a certains symptômes de l'addiction sans être tous les symptômes pour faire la maladie qu'on retrouve dans le phénomène de passion comme vous parlez.
Alors prenons par exemple la passion pour le sexe, hein, puisque oui. Après tout c'est une...
Il y a des gens qui sont hypersexuels sans problème.
Voilà, et c'est pas une addiction, on est bien d'accord, puisque ça ne les fait pas souffrir, mais en même temps c'est très chronophage.
Ouais, mais ça fait plaisir.
Ça coûte parfois très cher quand on paye un peu. Hein,
oui, mais si ça fait plaisir.
Oui, bien sûr, mais et ça éloigne aussi peut-être, et c'est ça que je trouve aussi intéressant. Je trouve qu'une passion, quelle qu'elle soit, va nous éloigner un petit peu de notre entourage, va peut-être parfois même nous faire refuser des choses qui professionnellement seraient quand même plus intéressantes. Enfin, elle passe avant tout, la passion. Vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Oui, c'est oui, oui et non. Oui, oui, parce que moi je prends mon exemple perso.
Allez-y.
Moi je suis fan du groupe Kiss, d'accord, et fan de musique hard rock, metal, etc. Mais du groupe Kiss, donc j'achète, tout. Je collectionne, j'achète. Tout. Ouais, là j'achète par exemple tous les pressages vinyles de tous les pays du monde. Vous voyez, bon, j'ai du temps encore pour remplir ça, mais ça m'éclate en fait. Alors c'est vrai que je dépense un peu d'argent. Ma femme peut un peu de temps en temps me dire ouais t'exagères. Après c'est vrai, ce que vous dites, c'est vrai que je peux aller voir, enfin maintenant ils sont à la retraite, mais je peux aller voir Kiss dans d'autres villes de France, etc. Mais c'est toujours dans un truc de kiff, quoi, de plaisir,
oui,
en disant.
Non mais j'ai pas. Voilà. Encore une fois, oui, moi non, je suis pas pour juger.
Non,
hein.
Non, mais parce qu'on peut se dire, c'est vrai, vous avez raison, on peut se dire, je vais aller faire ça à la place, je sais pas, d'aller dans un dîner de famille ou.
Mais forcément, je veux dire.
Mais
et
ça joue
une fois,
forcément.
Pourquoi pas, hein, j'ai pas du tout envie, parce que moi je suis, ouais, la première à penser
mais
qu'au
vous
contraire.
Êtes une kiffeuse, Brigitte.
Mais bien sûr, et je suis la première à penser que les passions,
ouais, ça anime.
Les collections aussi, quand on est
ça
collectionneur,
bah oui,
ça donne du sens, des buts, etc. Donc je suis pas du tout pour nier ça,
ouais,
je suis juste pour qu'on trouve,
ouais,
un tout petit peu quand même le juste milieu.
Ouais, c'est vrai.
Parce que parfois.
Mais après, quand c'est débordant, ça devient un peu pathologique. Ça peut être pathologique si vous commencez à dépenser.
Par exemple, si vous n'aviez pas autant de travail à l'hôpital, ça pourrait peut-être poser un problème dans votre bilan matériel du foyer, par exemple.
Ouais, mais alors
là,
moi.
Vous gagnez bien votre vie, donc ça va.
Moi, comme vous me connaissez, je pourrais gagner mieux ma vie. Moi, je travaille que dans le public. Mais, comme vous me connaissez, Brigitte, maintenant depuis longtemps, c'est que moi, je peux pas faire qu'un seul truc. Donc, je suis à l'hôpital, je suis à la fac parce que je suis prof. J'écris des bouquins, je me fais kiffer en fait. Tout ce que je fais,
c'est le dernier d'ailleurs est formidable.
Merci,
justement,
Brigitte.
Puisque c'est quand même un livre qui nous enseigne à justement prendre du plaisir. Hein. C'est quand même un livre qui, c'est aux éditions Fayard, hein, je crois.
Ouais, aux éditions HarperCollins.
Pardon, excusez-moi. je crois que c'est vraiment important de bien faire prendre conscience, ouais, que c'est chouette. Et d'ailleurs, les gens qui n'ont absolument pas de passion sont souvent tristes.
Ils sont tristes, bien sûr.
On est bien d'accord. Mais attention de ne pas se laisser envahir par sa passion. C'est juste...
C'est vrai. Mais d'ailleurs, si les auditeurs et auditrices veulent m'envoyer des trucs de Kiss, moi, je les accepte volontiers, par exemple.
Très bien. Le message est passé.
Non, mais il y a ce truc qui m'anime. Vous voyez, par exemple, j'ai des copains ou des copines qui vont à l'étranger.
Ouais.
Eux, ils vont à l'étranger pour des voyages professionnels ou je sais pas quoi, ou de famille et tout. Je leur dis toujours, écoute, si tu trouves un truc de Kiss, rapporte-le-moi, file-moi ton rib, je le paye, ou on s'arrange, quoi. Et tout le monde joue le jeu, en fait. Donc, c'est-à-dire, ça alimente quand même aussi.
On a envie de vous faire plaisir. Vous êtes tellement généreux, tellement sympathique, Laurent Kerila. Il n'y a pas de souci.
Ça alimente le truc, en fait. Vous avez raison.
Et alors, je voulais revenir sur cette question de l'amour, et du côté, justement, addictif de, lorsqu'il y a une histoire d'amour qui va bien, très bien, tout va bien, pas de souci. Quand une histoire d'amour commence à aller moins bien, je trouve que ce qui nous fait avoir du mal à prendre la décision de quitter, c'est qu'il y a toujours cette sorte de rappel, de mémoire, des moments qui allaient bien, et l'espoir que ça revienne,
bien
et
sûr.
Donc on reste accroché alors que malheureusement ça marche plus.
Mais ça, c'est une fonction de base de notre cerveau en plus, c'est-à-dire que notre cerveau se rappelle toujours des bons moments en fait. Il se rappelle, vous voyez, quand vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes tombé follement amoureuse ou amoureux de lui, vous vous rappelez de ces moments. Et vous vous rappelez un peu moins le cerveau se rappelle un peu moins de toutes les disputes qu'il peut avoir, de toutes les prises de tête, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que comme il y a une interaction entre deux personnes qui est proche de cette addiction positive, en fait, après, elle peut basculer chez certains dans, moi j'appelle ça l'adamour, l'addiction amoureuse. Et l'addiction amoureuse, c'est que du négatif, en fait. C'est parce qu'on va souffrir pour tout. Tu vas me manquer, je vais être en manque comme un drogué, je vais avoir des envies de te voir. Alors dès qu'on va se voir, on va s'engueuler, vous voyez. Et tous les symptômes de l'addiction vont se répercuter sur le sentiment amoureux. Et là, ça va être difficile. Mais on a en mémoire, nous, ce qui nous fait du bien.
C'est ça,
toujours.
Oui, et alors parallèlement, et c'est ça qui est quand même curieux, c'est que lorsqu'on vit une peur intense, un traumatisme, eh bien ça reste aussi très très marqué. Pourtant, c'est un truc désagréable.
Ça reste marqué, mais ça peut rester aussi très inconscient. Alors que
c'est dans l'enfance.
Ouais, c'est ça, dans l'enfance, dans l'adolescence. Mais vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a été victime d'un attentat, il peut faire un stress post-traumatique. Donc son cerveau a enregistré cet événement horrible, etc. Ça peut aller très très vite en fait. Le cerveau déconnecte sur certaines choses en fait. Donc il y a ces deux éléments là.
Oui, vous voulez dire qu'il va avoir tendance à remettre dans l'inconscient le moment traumatique.
Mais ça va être dur à gérer dans la vie réelle.
Parce que c'est trop violent justement, voilà, trop difficile. Et comme le psychisme quand même essaye de nous sauver, tout ce qui est trop difficile, on le met dans le tiroir.
On le met dans le tiroir et on essaye de compenser. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir? On ne sait pas ce qui se passe. Et certains peuvent commencer à prendre des drogues, de l'alcool.
C'est là où on peut tomber dans l'addiction après
déprimé, un traumatisme. Être anxieux, plus dormir, etc.
Parce que justement, on ne sait pas trop pourquoi on n'est pas bien.
Exactement.
Donc pour aller mieux, on boit une bière, une coupe de champagne, et puis deux, et puis trois.
C'est ces racines-là qu'il faut arroser, on ne sait pas ce qui se passe.
Donc en fait, à vous écouter, Laurent Kerila, j'ai l'impression que lorsqu'on a une sensation comme ça de mal-être assez diffus, ça vaut peut-être le coup d'aller chercher l'origine de ce malaise, mais c'est pas facile.
Mais il faut apprendre à se connaître aussi quand même. C'est quand ça devient, on va dire, difficilement gérable, où on fait un peu n'importe quoi, ça peut être pas forcément n'importe quoi de manière exagérée, il faut se dire, peut-être je vais aller voir ce qui se passe. Peut-être je vais aller en parler avec quelqu'un. Et je recommande ça. Même pour des gens qui vont d'allure bien, on peut aller voir quelqu'un et aller explorer des petits trucs.
Et puis c'est parfois très, 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 ça va très vite parfois. Et bien justement, vous pouvez nous appeler au 0826-300-300, soyez addict à Laurent Kerila
et à Brigitte.
Et à moi, bien sûr. On fait une petite pause, on se retrouve tout de suite.
Sud Radio Toulouse.
101.8.
Sud Radio.
And I love you.
22h minuit, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
La passion, les addictions, on en parle avec Laurent Carilla, psychiatre, oui, qui est avec nous. Vous êtes un des premiers à avoir beaucoup, beaucoup travaillé sur les addictions. Et puis, vous êtes aussi quelqu'un qui nous invite à en avoir, des addictions, des
positive,
passions. Qui nous invite surtout à profiter de la vie, puisque votre dernier livre, Docteur Addict ou pas, aux éditions HarperCollins, vous nous montre bien,
bien
qu'on est au... Enfin, on est presque obligé, si on veut être heureux, d'avoir quand même un peu,
stimuler,
un peu de choses agréables.
Bien sûr.
Sinon,
je vous adore, Brigitte.
Et c'est Eva qui commence. Bonjour Eva.
Oui, bonjour. Bonjour Laurent.
Bonjour Eva.
Brigitte. Merci de me recevoir.
Mais je vous en prie. Merci à vous Eva d'être avec nous.
Merci. En fait, moi je voulais vous parler d'une addiction au travail.
Oui, ben oui, vous avez raison, ça existe.
Addiction au travail qui peut être une passion, mais qui peut devenir une véritable addiction.
Alors, tout va dépendre, parce que pour moi, il y a deux sortes d'addiction au travail. Il y a l'addiction parce qu'on adore son travail et que finalement, c'est pas un travail, c'est presque un art, enfin, etc. Et puis, il y a l'addiction au travail qui permet de ne pas être trop souvent au foyer. Je sais pas si...
C'est exactement ça.
Mais vous avez raison, j'en parle dans le bouquin d'ailleurs. Il y a, ce que vous dites là, c'est il y a ce qu'on appelle la passion pour son travail. Ça existe, c'est une phase. Et après, cette passion pour le travail, elle peut être associée à ce qu'on appelle l'hyper-travail. Donc on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Et c'est vrai que bon, c'est un peu chronophage. Mais quand on bascule dans l'addiction, on est comme un addict à des drogues. Mm-hmm. C'est-à-dire que le travail ne fait même plus plaisir.
C'est ça. Et quand c'est une fuite pour pas rester avec son conjoint, c'est un petit peu.
Ça
parle de quelque chose.
La passion du travail devient pathologique en fait quand il y a ça. Mmh. Si on n'a pas tous les symptômes d'addiction.
Alors dites-nous Eva, où est-ce que vous en êtes vous?
C'était le passé. C'est plus ça maintenant. Donc ça c'était plutôt pour par rapport au fait de rester longtemps au travail pour ne pas être à l'intérieur du foyer.
D'accord. Et ça c'était donc une relation précédente.
Ouais, tout à fait, tout à fait. Donc, ça peut être souvent le cas de des hommes quand ils viennent d'avoir un jeune bébé. et du coup, ne pas être trop présent à certains moments, et en tout cas pour une certaine génération, et qui faisait que ça leur permettait de, en rentrant un peu plus tard, de ne pas avoir effectivement un certain nombre de tâches à faire dans lesquelles ils n'étaient pas forcément à l'aise, quoi.
Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez alors sur votre addiction au travail?
Sur cette addiction-là, c'était pas la mienne, hein. C'était celle
de
votre conjoint. D'accord.
Ouais, tout à fait. Et ça présageait quelque chose de pas forcément positif par la suite, forcément, parce que il y avait quelque chose, une sorte de fuite, effectivement.
Oui, oui. Et vous en avez souffert? Vous en êtes rendu compte assez vite ou déjà?
J'ai pas compris. En fait, j'ai pas compris cet épuisement en fait. Alors il y avait deux choses, il y avait l'épuisement du fait d'un jeune bébé qui arrive de d'assurer financièrement et socialement, professionnellement. Donc cette pression sociale et familiale qui était importante. Et puis ce manque à l'intérieur du foyer puisque la présence était importante pour pouvoir soulager. Par rapport à des actions qui peuvent être un peu lourdes à gérer tout seul, quoi.
Oui, et puis on peut se sentir un peu abandonné parce que l'autre n'est pas là. On peut avoir l'impression que le travail est plus important pour lui que pour nous, donc ça fait du tiers qui est pas facile à accepter. Enfin, ça a des répercussions sur plusieurs plans. Hein.
Complètement. Mais c'était peut-être pas forcément une addiction au sens strict du terme. C'était peut-être justement comme vous dites. Une fuite liée à l'arrivée d'un bébé qui peut un peu perturber toutes les relations, etc., non?
C'est un peu, je dirais... Ah ouais, après, ça peut être aussi une découverte d'un principe de Peter, c'est-à-dire que Peter Pan, je dirais Peter Pan d'ailleurs plutôt, c'est de ne pas assumer complètement et de ne pas se rendre compte forcément de toutes les responsabilités, et en même temps... C'est une sur-responsabilité parce que il faut assurer... D'un point de vue financier et d'un point de vue d'un point de vue statut social aussi, voilà.
Ouais, complètement.
Mais vous avez pu en parler
ça a été, oui, ça a été, mais après ça c'est compliqué, et puis après il y a eu effectivement bah, du coup, on prend du fait que ça se complique dans le nid, bah, du coup, on va chercher des ressources ailleurs. Et c'est souvent sur le lieu du travail. Et du coup, bah, y a des choses qui se passent sur le lieu du travail.
Mais alors là, c'est. Donc, c'est
on a encore
c'est...
moins envie de revenir.
Oui, donc coup, il a pris une maîtresse, c'est ça.
Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Et du coup, bah, les choses se sont forcément.
Oui, dans ce que, de ce qu'on vous dit, on a vraiment en effet l'impression que c'est un homme qui n'a pas assumé sa paternité d'une manière très inconsciente.
Oui, c'est plus ça que de l'addiction au travail, je pense.
Et donc ça a dévié sur plus de travail et puis ensuite évidemment une autre femme qui n'était pas la mère de ses enfants.
Non, mais je pense aussi qu'il y avait beaucoup de d'addiction en amont de ça, de ce comportement-là. C'est-à-dire que ce comportement-là s'est manifesté sur cette relation-là, assez avec cette histoire-là, mais au préalable, il y avait du sport à outrance, il y avait du travail à outrance, il y avait, enfin, tout était à outrance en fait. Il y avait toujours des choses qui étaient faites d'une manière exponentielle.
C'est intéressant ce que vous dites, Eva, par rapport au sujet du jour. Laurent Carilla, au fond, quelqu'un qui ne sait pas, entre guillemets, s'ennuyer, c'est-à-dire rester tranquille, c'est déjà un signe qu'il y a besoin de remplir ce vide.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est les comportements excessifs comme ça, ou à fond, c'est de remplir ce vide, qui est anxiogène, en fait, ça, qui est source d'angoisse. Et il faut être occupé, il faut avoir la tête occupée, tout être occupé de partout, quoi. Et c'est vrai que pour certains qui sont un peu vulnérables, pour le coup, ils peuvent basculer dans une vraie addiction, maladie.
Et est-ce que vous êtes d'accord? On dit qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus dans ce comportement-là, avoir du mal à simplement...
Ouais, parce que la société est très speed, on demande aux gens d'être très productifs, de faire tout très vite... de dépenser très vite, dans tous les sens du terme, et en fait c'est vrai que ça a un impact sur nos enfants, les ados, etc. C'est, on leur dit mais ennuyez-vous, ils s'ennuient plus les ados. Hein.
Les ados. Il y a toujours faire, la notion de faire.
Tout à fait. Et ils vont sur, par exemple sur TikTok quoi, ils s'ennuient pas. Quoi.
Et ils zappent et etc.
Exactement.
Etc. Oui. Là, il faut réapprendre réapprendre la patience, réapprendre...
la béatitude.
Et vivre, profiter de l'instant présent, surtout.
Ouais, c'est ça. Et la béatitude qu'un enfant, justement un jeune bébé, vous apprend, parce que il faut que le rythme soit beaucoup plus calme.
C'est sûr que si vous secouez l'enfant pour le changer, lui donner son biberon et hop, allez, dépêche-toi, avale. ça risque de le perturber pas mal, oui. Mais en même temps, c'est terrible aussi parce que ne plus savoir la patience, l'ennui, etc. Ça rend la concentration plus compliquée.
Enfin, c'est l'attention même.
Oui, absolument.
Ça entraîne des problèmes respiratoires aussi parce que, comme par hasard, cette personne respire mal. Et maintenant, à même pas 50 ans, un respirateur pour respirer. Donc ça entraîne plein de choses aussi dans sa manière d'être au quotidien aussi.
Mais il fumait probablement, non ?
Pas forcément.
Non.
Mais du stress, non. Peut-être ? Beaucoup de stress ?
Ouais, énormément. Énormément de stress. Ouais. Énormément de stress. Les métiers très, très stressants, ouais.
Le stress, hein, ça finit par contracter les poumons. C'est pas.
Attention au stress.
Ouais, ouais. Il faut qu'il apprenne à se relaxer et prendre le temps de vivre.
Prendre le temps, ouais.
Parce que si on prend pas le temps de vivre, on meurt très vite. Hein.
On a le temps qu'on a et le temps qu'on prend. Quoi. Donc c'est clair. Quoi.
Donc après, on passe à un autre relais, en fait, je dirais.
Eh ben merci Eva, en tout cas, parce que vous montrez bien que ben il y a énormément de lieux, d'endroits, de professions, de passions, d'activités qui sont signes évidemment d'un mal-être. Mais au fond, est-ce que c'est pas inhérent à la nature humaine,
hein? Il y en a forcément. On vit pas à Euro Disney, donc forcément il y a des moments où c'est top et des moments où c'est un peu moins bien, quoi.
Oui, il faut être aussi indulgent avec soi-même.
Exactement.
Évidemment,
il faut se connaître.
Se connaître, mais ne pas se juger et se critiquer. Merci Eva, on fait une petite pause et c'est Valérie qu'on va retrouver dans un instant.
Sud Radio.
Sud Radio. Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai.
On peut penser qu'après l'expiration de sa garantie constructeur, il ne reste plus qu'à croiser les doigts, en espérant que tout ira bien. Ou on peut choisir l'offre Dacia Zen. Avec Dacia Zen, bénéficiez d'un an de garantie supplémentaire en effectuant votre entretien avec un forfait Dacia Essentiel dans l'un de nos 4000 ateliers Dacia Service.
Valable pour les véhicules de moins de 73 mois et 120 000 km. Prise de rendez-vous et conditions sur Dacia.fr. Pensez à covoiturer.
Sud Radio à Toulon, en DAB+.
Sud Radio.
Ne bougez pas. Dans un instant, retour de Brigitte Lahaye, Sud Radio.
J'aurais voulu te rendre fière. Passer des minutes blanches à supporter les dimanches. Et quand le lien s'était fait, t'attendre face à la porte, dire que l'été n'est pas mort et que le mal est passé. C'était trop tôt, je sais. J'aurais voulu te rendre fière. Passer des minutes blanches, rester au creux de tes hanches, accoudé à tes barrières. Même si j'ai mal à la tête lorsque tu penses à ton ex, même si vous deux c'est réglé. Enfin du moins je pensais, je sais. Je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps pour des corps à corps dans ce désordre où je ne serai pas le roi. Puis si je reste là, dis-moi ça ferait quoi? Mal, mal. J'ai pas fumé cet hiver, puis j'ai ressenti le manque quand j'ai senti ton errance, quand j'ai senti le mal-être. Prendre de toi les vacances, c'est un écho de violence, c'est un bouquet écrasé. C'était trop tôt, je sais. Alors j'ai fumé hier, mais y'a toujours le manque, car je danse sur la transe, mais t'es pas là à côté. J'avais cette envie immense de continuer la romance et de ne pas tout planquer. C'était trop tôt, et je sais. Je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps pour des corps à corps dans ce désordre où je ne serai pas le roi. Puis si je reste là, dis-moi ça ferait quoi? Mal, mal. Non, je ne vais pas revenir puisque tu vas choisir un autre corps pour des corps à corps dans ce désordre où je ne serai pas le roi. Puis si je reste là, si je reste là, dis-moi ça ferait quoi, ça ferait quoi? Mal, mal, mal. Non, je ne vais pas revenir parce que tu as choisi un autre corps. Je veux qu'on me mord, que ce soit fort, que ce soit fort. Mais ce sera pas toi, non, ce sera pas toi. Dis-moi ça fait quoi? Mal.
Mal, je ne veux pas revenir. 22h minuit, Brigitte Lahaye, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio.
Avec Laurent Carilla, psychiatre, nous évoquons l'addiction, la passion.
Oui, Brigitte.
Et on vous invite évidemment à réagir, quel que soit le choix. Que, enfin, le choix, est-ce qu'on choisit d'ailleurs? Ça, c'est pas sûr. Bonjour Valérie.
Bonjour Brigitte, bonjour Laurent.
Bonjour Valérie.
Et vous allez nous parler de passion, vous?
Oui, c'est ça. Et moi, j'ai vécu une passion dévastatrice il y a 9 ans.
Oui.
Ça a duré 2 ans et demi. 2 ans et demi de passion, voilà, tous les jours, pareil, sur la même intensité, sur tout, dans tous les domaines.
Pour un homme, hein, donc?
Oui, oui, bien sûr, oui, pour un homme. Et ça s'est arrêté brutalement parce que peut-être que j'étais épuisée et que lui, partait, revenait. Et là, à bout de force, quand il est revenu, j'ai pas accepté qu'il revienne. Cependant, pendant ces 2 ans, il y a eu ces allers et retours tout le temps. Ça a duré 1 mois, ça a duré 2 mois, des fois la séparation. Mais on revenait tout le temps avec la même intensité. Et 2 ans et demi après, il est revenu. Et c'était pareil, en fait. J'ai ressenti en moi cette même intensité. Je m'interroge parce que c'est vrai que j'ai peut-être un peu confondu l'amour avec la passion, mais on est dans le même schéma qu'une addiction en fait. Et le sevrage, il a été extrêmement dur. Et je sais même pas si c'est, enfin, si je pense qu'aujourd'hui ça va, mais voilà, c'est extrêmement difficile. Et cette peut-être toutes ces choses qu'on dit sur les addictions, que voilà, il faut se sevrer, qu'en 28 jours, 21 jours, etc., il y a un délai, que ça va aller mieux après, qu'au bout de 3 mois, tu verras, tu vas y arriver. Mais non, en fait, c'est faux, en fait. Le corps, il réclame, en fait. Il y a un truc à l'intérieur qui est plus fort que la raison, en fait.
Il n'y a pas de modèle pour l'amour, en fait. Hein. C'est pas le même modèle que pour les drogues. Les drogues, ça peut être... Mais c'est vrai que ça peut être très très long. Il y a plein de, ça remue plein de choses à l'intérieur aussi. Et puis ça dépend des personnalités des uns et des autres, du tempérament, de l'histoire personnelle, etc. Et puis cette l'addiction amoureuse, ouais, c'est ça peut être redoutable.
Mais dans ce que j'entends comme ça, Valérie, j'ai l'impression qu'il y avait surtout une sexualité qui était top de top, non?
Ah ben complètement.
Voilà, parce que c'est ça qui fait que c'est très très... Parce que moi je trouve que la sexualité, quand elle est comme ça aussi intense. Vibrante, intense, c'est pas loin d'une drogue. Quand on
ah
est
c'est
dans...
une drogue.
Vous êtes d'accord enfin, sur le plan hormonal, de toute façon, ça a été prouvé.
Même sur le plan cérébral, c'est une drogue.
Donc c'était ça le problème. C'était pas la personne en elle-même. C'était ces moments intenses de charnels que vous aviez avec lui, et quand vous n'en aviez plus, ça vous manquait.
Oui, mais oui, je suis d'accord avec vous. Et effectivement, ça fait le parallèle avec ce que je vis peut-être actuellement dans une relation qui est assez discontinue. Donc on se voit pas, mais quand on se voit, c'est toujours sur le même niveau d'intensité, c'est toujours les corps qui s'appellent, en fait. Alors je sais pas si c'est de la passion, mais en tout cas il y a un magnétisme extrêmement fort que lui et moi on n'a pas avec les autres, et c'est extrêmement troublant parce que je crois qu'à un moment donné on s'appelle, ouais. On s'appelle cérébralement, enfin, et puis physiquement, et quand on se croise, quand on s'est pas vu depuis 2 mois, on finit la nuit ensemble, quoi.
Vous êtes des neurones miroirs, quoi.
Ben peut-être. Mmh. Et il y a ce bien-être, en fait, aussi. Il y a pas que
l'aspect
sexuel. Hein. Il y a cette espèce de bien-être de comme si on rentrait à la maison, en fait, vous voyez.
Il y a cette plénitude après le moment intense de sexualité. Il y a cette plénitude. Et c'est là où on pourrait quand même dire que c'est différent d'une drogue, parce que ça apporte quand même, ça apporte à nouveau de l'énergie, ça ressource.
C'est plus du plus que du moins.
C'est quand même, ça c'est excellent pour la santé, sur le plan hormonal, neuronal. Donc c'est quand même pas une drogue, mais
ça se comporte comme.
Il y a ce sentiment de manque si c'est trop longtemps absent.
Oui, mais c'est pas un manque, la personne à moi, elle me manque pas, en fait. La personne avec qui j'ai cette relation-là actuellement, elle ne me manque pas. Alors que il y a 10 ans, c'était invivable.
Peut-être que vous êtes devenue plus sage,
plus mature,
Valérie.
Peut-être que c'est ça, peut-être. Mais en attendant, aujourd'hui, pour se défaire de ce type de relation, on fait comment? Parce que c'est pas une drogue, ok, parce que c'est pas mauvais. Et effectivement, j'avoue, maintenant que vous le dites, quand on se voit, après, il y a un espèce de regain d'énergie, de plein de belles choses, en fait. Enfin, moi, je me remplis, en fait, de mon énergie.
Et en plus, vous avez pas l'air d'en souffrir, donc je vois pas pourquoi vous voudriez arrêter. Qu'est-ce qui vous dérange
Moi, ça ne dérange pas, mais c'est plutôt lui que ça dérange, puisque je suis beaucoup plus âgée. Je suis plus avec lui, et ça, c'est pas compatible avec une relation.
Je suis pas sûre que ça le dérange.
C'est pas grave,
c'est lui,
ça.
Il dit, en fait.
Ah oui, ça le dérange.
C'est normalisé. C'est normalisé.
Bah, c'est son problème. Si vous, ça vous dérange pas.
Non, moi, ça me dérange pas. Alors, moi, ça me dérange pas du tout. Hein. Moi, la situation, elle me convient, parce que moi, je suis assez indépendante et assez libre. Et du coup, moi, ça va. Mais c'est vrai que, il y a des fois, j'aimerais bien que ça aille un peu plus loin que ces moments, que ces évasions ou ces parenthèses, en fait. Hein. Au final, ça convient.
Ça vous fait du bien.
Et c'est là où peut-être la différence d'âge fait qu'il a pas envie de s'engager plus. Parce qu'il veut peut-être avoir des enfants, j'en sais rien.
Il n'y a pas une différence d'âge à ce point-là. Il n'y a que 8 ans d'écart. Hein. Moi, j'ai 53 ans. Donc, il n'est pas non plus. Il n'est pas très.
Il est jeune quand même.
45 ans, donc. Hein.
Voilà,
vous êtes jeunes tous les deux.
Franchement.
Tous les deux. Non, mais complètement.
Je vois pas le problème. Alors, à mon avis, parce que je commence un petit peu à connaître les garçons, Valérie.
Brigitte la sage.
À mon avis, c'est la bonne excuse qu'ils vous donnent pour pas s'engager. Hein.
Oui, mais après, peu importe, parce que moi, est-ce que moi j'ai envie vraiment de m'engager, je pense
non,
pas.
Non, non, hein, j'ai bien voilà. compris que vous étiez pas
moi,
absolument.
Je suis pas prête à ça non plus.
Mais ça doit lui faire peur, cette dépendance doit lui faire peur, parce qu'il y a une dépendance quand c'est intense comme ça.
Oui, mais du coup, c'est ça en fait, mais c'est pas reconnu comme tel en fait.
C'est-à-dire
une incompréhension. Ben, à chaque fois qu'on se retrouve comme ça, parce que il rencontre d'autres gens et puis il essaye avec d'autres personnes et puis moi aussi, hein. Mais au final, ça, au bout de 2-3 mois, ça capote et puis on se retrouve comme si c'était hier. Et on se dit tous les deux, mais on va jamais s'en sortir en fait.
Mais non, parce que vous êtes compatibles parfaitement.
Bah oui.
Vous êtes histocompatibles, donc c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs.
Mais je comprends pas pourquoi vous voulez pas vous mettre ensemble, enfin. Ouais.
Bon, dites-lui qu'il nous appelle, on va lui parler.
Vous appeler, c'est lui qui devrait vous appeler. En fait.
Non, dites-lui qu'il nous appelle, on lui parle tout de suite.
Voilà, hein, on va.
On va vous régler votre histoire parce que là, voilà, on sait, vous êtes des neurones miroirs, vous êtes compatibles.
Ah, par contre, c'est complètement ça. Hein. On est vraiment, il y a cette dimension là en plus. C'est pas que sexuel, non. Il y a des choses qu'on vit en parallèle et voilà.
Oui, mais en plus vous vous disputez pas, il y a pas de conflit.
Non,
enfin,
jamais.
Je veux dire.
Non, donc
bon, dites-lui nous appeler. Allez, Brigitte, vous êtes d'accord?
Absolument, absolument. Vous lui donnez notre numéro. On va lui parler. On va lui parler vrai, Valérie.
Comme le dit Sud Radio.
Bon, mais en tout cas, merci de ce témoignage parce que oui, il y a quelque chose qui est quand même.
Bah ouais, c'est ce côté, comme on disait tout à l'heure, Brigitte, la passion, la limite. Et un peu de l'addiction et des symptômes qui se mélangent, quoi.
Oui,
mais c'est vrai.
Mais vous n'avez pas l'air d'être addict, hein, Valérie.
Voilà. Je ne sais pas que je suis. Si, quand même, un peu.
Non,
enfin,
non, vous
pas,
êtes follement passionnée. Et ça, c'est beau.
Ah oui, mais ça, c'est pour tout. Pour tout. Je viens tranquillement, ouais, j'avoue. Mais je prends le temps de vivre. J'ai bien écouté ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais je prends le temps de vivre.
C'est cadeau.
Et j'apprécie chaque seconde, oui.
Mais moi, je suis. Enfin, j'ai l'impression que vous avez un très bon élan vital.
Ah,
et ça, c'est formidable. Ouais. Surtout, gardez-le. Enfin, à mon avis, il n'y a pas de risque. Hein. Merci de ce témoignage, Valérie. Merci beaucoup. Alors, Sophie est avec nous maintenant. Elle va répondre à 3 questions intimes. Bonjour, Sophie.
Bonjour, Sophie.
Bonjour.
Alors, première question, quelle serait votre addiction, en tout cas, quel serait votre petit péché mignon?
Moi, c'est un peu la cigarette, quand même.
Ah, ça, c'est pas terrible, parce que ça, il n'y a aucun avantage, hein. Il n'y a que des inconvénients.
Ouais. Alors, je vapote et je garde la cigarette.
C'est bien de vapoter. Essayez de vapoter à fond, même.
Oui, je vapote, mais je garde 2-3 cigarettes dans la journée, voilà, pour le plaisir,
Pour le plaisir, comme disait Herbert Léonard.
Mmh. Exactement.
Oh, 2-3 cigarettes par jour, ça va encore. On va pas.
Hein. Oui, mais bon.
Mais si on peut les enlever, c'est encore mieux.
Bah oui, ça.
Avec encore plus de nicotine dans votre vape, c'est encore mieux, Sophie.
D'accord. Okay.
Écoutez-moi, enfin, Sophie.
Bon, alors je culpabilise moins. Alors
non, faut pas culpabiliser. Vous augmentez la nicotine de votre vape et vous verrez, ça sera encore mieux pour vous.
D'accord.
Bon, super. D'accord.
Bon. Et deuxième question, quelle note vous donnez aujourd'hui à votre libido, aujourd'hui, là?
Oh là 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 là.
Ça, c'est pas une note, hein, c'est un commentaire.
Non, c'est... 2. Non,
bon,
c'est
bah alors.
2 sur 10 ou 2 sur 20?
Bon, bah, essayez n'importe. La pipe, hein, peut-être que ça marchera mieux.
C'est encore plus de... moins de risques encore.
Non, mais au moins...
C'est catastrophique. Ouais,
2 sur 10, c'est pas terrible, hein, c'est vrai. C'est
non,
pas,
non.
C'est, ouais,
non.
Ouais, bon, bon. Bah, il faut changer, hein, au lieu de 2-3 cigarettes par jour, 2-3 hommes par jour, et puis ça devrait faire remonter votre libido et descendre...
Bon, j'espère bien que ça va changer. Oui.
Bah, nous aussi. Hein, là, attendez, il fait encore un peu froid, là, c'est le week-end de Pâques, c'est normal. Mais après, le soleil va enfin être là. Vous allez pouvoir mettre vos petites jupes, et puis vous allez voir, les hommes vont se retourner sur vous et hop, c'est reparti.
J'attends le soleil avec impatience.
On est nombreux, je crois. Hein.
Oui.
Et bon, dernière question. Est-ce que vous pourriez me raconter votre plus beau souvenir érotique? Ça va faire remonter votre libido.
Érotique.
Ou pornographique, hein, ou charnel, enfin.
Ah voilà, le plus beau, alors.
Ce qui vous vient à l'esprit.
Oui, ben celui qui me vient à l'esprit, c'est un orgasme avec les seins. Ça a été la plus belle chose de, qui m'est arrivée dans ma vie.
C'est-à-dire, on vous caressait les seins, donc vous caressez les seins et vous avez eu un orgasme.
Une fois. C'était le plus beau, je m'en rappelle de celui-là.
Mais c'est marrant parce que ça arrive plus souvent qu'on ne l'imagine. Et c'est bien que vous puissiez le dire à l'antenne parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive.
C'est magique.
Mais il n'y a que les femmes qui peuvent arriver à jouir avec des parties de leur corps tout à fait inattendues.
C'est super, vous avez trop de la chance.
C'est vrai, je reconnais, je suis privilégiée de ce côté-là.
Bon, bah ça remonte un peu votre libido, ça quand même.
Sophie. Oui, je suis contente de retrouver tout ça.
Hein?
C'est sûr.
Je vous laisse poser une question à Laurent Carilla, il vous écoute, allez-y.
Alors, Laurent Carilla, que je connais par le biais de la télévision. Et donc, j'aimerais savoir quelle est votre addiction?
Le heavy metal. La musique.
Ah oui, d'accord. D'accord, ben c'était ma question. C'était pour savoir si vous avez d'autres addictions?
Le travail, un peu. Moi, je suis pas trop fan des...
Vous n'êtes pas trop dans l'addiction. Enfin,
moi,
c'est
non.
Plus des passions que des addictions, en fait.
Je suis pas trop consommateur de substances. Même dans les comportements, non. Moi, je fonctionne à la passion, exactement. C'est ça qui m'anime, en fait.
Mais d'ailleurs, moi j'ai remarqué, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Laurent Carilla, mais j'ai remarqué que lorsqu'on a plusieurs passions, on est rarement dans une addiction réellement.
Non, parce qu'on est...
On est suffisamment habité, si je puis dire.
On est habité, complètement.
Moi, je vous rejoins là-dessus. Je suis passionnée aussi, moins qu'addict.
Par quoi? Alors, par quoi vous êtes passionnée, vous, Sophie?
Oh, par plein de choses. Du bricolage, du jardinage, de la nature, de la rando. Je suis passionnée par une fleur, par tout.
Vous aimez la vie.
C'est cool.
J'aime la vie, exactement. J'adore la vie.
Bah alors, votre libido va pas si mal, parce que vous savez, la libido, c'est pas uniquement le sexe.
Bah oui.
La libido, c'est la puissance de vie, c'est Eros au sens, au sens large. Donc ça va, on va vous...
D'accord.
Allez, on vous met 5.
Ah bon, ok, j'adore la vie, bien sûr.
Bon, alors, quand vous êtes dans la nature, vous ne fumez pas et puis c'est tout.
Ouais.
Ouais, exactement. Non, je ne fume pas. Quand je fais mon sport, mes rando, je ne fume pas.
Excellent. Mm-hmm. Et vapoter à fond.
Bon. D'accord, ok.
Merci Sophie.
Merci Sophie.
On fait une petite pause et on va retrouver Bertrand qui est peut-être addict, aux sous-vêtements féminins. On verra ça dans un instant.
Sud Radio à Dijon en DAB+.
Sud Radio.
Make my way downtown, walking fast. This path and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall. To the sky, do you think time went past me by? 'Cause you know I'd walk 1,000 miles if I can just see you tonight. There's always times like these when I think of you and I wonder if you ever think of me. I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? Oh, 'cause you know I'd walk 1,000 miles if I could just see you tonight.
downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Sky, do you think time would pass us by?
Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
22h minuit, Brigitte Lahaye Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaye Sud Radio.
Samuel Comblaise est avec nous, directeur général adjoint de l'association e-enfance, qui est évidemment une association qui défend les enfants de tous les dangers, et notamment, on en parle aujourd'hui, du danger de la prostitution. Vous pouvez réagir, poser vos questions à Samuel Comblaise en nous appelant au 0826 300 300, et David nous rejoint. Bonjour David.
Bonjour Brigitte, bonjour Samuel.
Bonjour David. On vous écoute.
On vous écoute, oui, allez-y.
Oui, moi c'était par rapport... déjà à titre personnel, je pense que dans mon éthique, je ne serai jamais consommateur de prostitution. Je pense que la loi en France, ceci dit, par rapport à mon éthique personnelle, est un peu mal faite, parce qu'elle ne protège pas forcément ceux qui sont dans la prostitution. On a interdit, on a criminalisé, mais je ne suis pas certain qu'on protège plus et mieux. Et s'agissant des enfants... ou de la situation actuelle sur la jeunesse, hein, c'est un peu le thème de votre émission. Je pense que c'est pas forcément une prostitution claire et nette qui va s'afficher en premier pour l'ensemble des jeunes.
Alors, je précise d'ailleurs que en ce qui concerne un adulte, hein, qui paierait quelqu'un de moins de 18 ans, non seulement il tomberait sous la loi actuelle de la contre la prostitution, mais en plus il tomberait aussi sous la loi de la pédocriminalité. Mm-hmm. Hein, donc ce serait, ça serait quand même.
C'est juste jusqu'à 7 ans de prison. Hein.
Voilà. C'est important aussi de le rappeler parce que et je suppose que si c'était uniquement de manière virtuelle, ça serait quand même puni par la loi.
Oui, alors ça peut être compliqué, mais c'est pour ça que moi tout à l'heure je disais que il faudrait davantage intégrer aussi la prostitution numérique,
absolument.
Parce qu'elle elle est totalement réelle, mais aussi dans le même cas, parce que sinon
quand on charge des images
pour la pédophilie, oui bien sûr, de détenir et de stocker, voire parfois de retransmettre des photos à caractère pédophile, c'est puni par la loi.
Mais c'est bien de le rappeler quand
bien
même.
Bien sûr, hein. Bien sûr, la pédophilie est interdite en France, oui, ça c'est sûr.
Complètement, et la difficulté, je pense, pour la génération actuelle, c'est pas tant la prostitution pure et dure telle qu'on peut l'imaginer dans la rue ou ce genre de choses, ouais. Qui malheureusement peut arriver aussi, mais c'est surtout l'effet crescendo sur, en effet, ce que vous venez d'évoquer, c'est éventuellement la façon de monétiser l'échange de photos, de caméras, etc. Et ça, comme c'est plus virtuel au départ, je pense que c'est encore plus dangereux, entre guillemets, et que le passage à l'âge, le passage vers cette...
Alors, plus dangereux, non, mais plus attractif, plus facile, plus... Oui, oui.
Et puis il y a une escalade, je suis d'accord avec vous, David, parce que, y a, par exemple, je vais vous raconter deux situations que nous avons eu à traiter au 30-18, c'était des jeunes qui vendaient leurs photos de pieds, de leurs pieds. Il y a des gens, voilà, qui peut-être nous écoutent, peuvent être fétichistes des pieds et qui vont acheter, alors pas très cher, hein, 10-15 euros, des photos de pieds des jeunes filles ou des garçons. Donc, pour moi, même si c'est pas de la prostitution au sens classique du terme, mais c'est quand même une monétisation de son corps un peu dénudé. Donc, je trouve que déjà, c'est une petite entrée dans un risque de prostitution. Et le souci, c'est que, comme vous parliez de crescendo, quand on commence avec ses pieds, bah, évidemment, la personne qui commande ses photos, elle va vouloir en plus, et puis des parties plus intimes, etc., etc. Donc, ça peut être ce risque. Une autre chose aussi que nous avons géré comme situation, c'était des jeunes filles qui trouvaient des adultes, des clients dans la journée sur les réseaux sociaux, et le soir, elles mettaient une webcam au-dessus de leur lit, elles se couchaient nues sous leur drap, et le principe pour les clients, c'était d'attendre que la jeune fille bouge dans son lit. Forcément, quand on est en train de dormir, c'est assez facile, et le risque, c'est que le drap, évidemment, tombe par terre, glisse, ouais. Et puis que la personne soit à la vue de ses clients. Ça peut paraître très, très anodin, encore une fois, parce que c'est à distance, etc., mais c'est quand même aussi un rapport un peu compliqué, me semble-t-il.
Il y a une emprise, enfin, il y a quelque chose qui est
exactement,
pas clair.
Et c'est très rémunérateur. Et vous avez même aujourd'hui, pour les photos de pieds, par exemple, vous avez des tutos, des posts qui vous conseillent pour apprendre à mieux monétiser les photos de vos pieds. Sur Snapchat, en tout cas, j'ai déjà vu des conseils qui prêtent à rire, hein, parfois, mais qui sont quand même lus par les jeunes, parce que c'est des réseaux sociaux qui sont utilisés par les jeunes, et voilà, et donc ça commence comme ça de manière très anodine, on peut presque en rire, et puis quand on se rend compte que c'est assez facile et que c'est très rémunérateur, et on va aller crescendo vers d'autres choses. Donc je suis assez d'accord avec vous.
Et l'argent est toujours un moteur assez puissant potentiellement pour arriver à certaines dérives. Donc je pense qu'on essaie, en tant que parent, je suis parent, je pense que là, mes filles sont petites, donc ce n'est pas d'actualité, mais assez rapidement, je pense que je devrais en parler. On devra
alors,
en parler
je rappelle ce que disait tout à l'heure Samuel Comblez, hein, à partir de 5 ans, les enfants commencent à aller sur Internet, et à partir de 6-7 ans, ils sont aptes à y aller tout seuls.
Ils vont seuls, sans les parents. Oui. Donc, à partir de quel âge vous sentiriez prêt?
Elles ont 4 et 6 ans.
Oui.
Pour l'instant, bien sûr, elles n'ont pas de leur propre téléphone ni accès à Internet seuls. Je pense que ce sera à l'entrée du collège que potentiellement elles auront des téléphones. Et donc, un téléphone, même s'il est bloqué, et si on met du contrôle parental, on sait que ça peut être contourné. Et surtout sur l'échange, en effet, de photos et autres, là, on n'a pas besoin d'être sur un contrôle parental. Hein, avec WhatsApp ou d'autres applications, on peut échanger des photos. Donc à ce moment-là, quand elles auront ce portable, il y aura toutes les précautions explicatives qui sont avec, et sur le fait que même entre personnes frontalières, oui. On
fait vous voulez photos, réagir excusez-moi David, vous voulez réagir Samuel?
Oui, juste vous dire une chose David, sans vouloir vous alarmer, de ne pas donner d'outils numériques à vos enfants très bien avant un certain âge, mais dites-vous bien que les copains en auront peut-être, et parfois c'est par ce biais-là, par le téléphone ou les tablettes des copines et des copains de classe, que l'accès à ce genre de contact peut être fait. Donc je pense que c'est important néanmoins de les sensibiliser avec des mots adaptés, évidemment, hein. On ne dit pas la même chose à un enfant de 6 ans qu'un enfant de 10 ans, mais en tout cas de les prévenir que ça peut se faire aussi par les outils numériques des autres.
On continue à en parler après les infos. Vous pouvez poser vos questions ou réagir avec Samuel Comblez, 0826 300 300. Petite devinette, c'est deux petites filles qui regardent par la fenêtre et il y en a une qui dit « Regarde, la voisine fait une fellation à ton papa sous la véranda. » Que répond l'autre? La réponse est après les infos.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Sud Radio.
Parlons vrai. Sud Radio Montpellier.
104.7.
Sud Radio.
Côté libido, vous êtes plutôt romantique, libéré, excentrique, joueur. Rudesplaisirs.com comble toutes vos envies, même les plus intimes. Lingerie sexy, accessoires et jeux coquins, sextoys tendance, huile et bougies de massage.
Rudesplaisirs.com, plus de 9500 références, les plus grandes marques érotiques au meilleur prix.
Rudesplaisirs.com, le partenaire de vos désirs sexy et plaisirs coquins.
Découvrez notre nouveau showroom à Septèmes-les-Vallons ou passez commande sur rudesplaisirs.com. Livraison en toute discrétion.
Ne bougez pas. Dans un instant, retour de Brigitte Lay, Sud Radio.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi, mais t'es prête à partir et tout est rangé déjà. Y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné, pas donné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. J'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était, et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai. Se regarde peut-être pour la dernière fois, et sans se parler, c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder. C'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné, pas donné. Meilleur de ce qu'on était.
Sud Radio.
C'est pas très loin de la ville. C'est pas plus grand qu'un cœur tranquille, c'est nos racines. Elles sont toujours restées loin, là où on peut voir la mer sans fin et l'avenir. Et là. Avoir l'envie que quelqu'un d'autre s'en aille, avoir peur de revenir, avoir droit de devenir. On peut s'aimer, se désaimer. Se réveiller,
toujours pour pouvoir enfin toucher.